Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour que tu nous éclaires, pour que nous puissions comprendre ta parole, comprendre ce qu'elle a à nous dire, comprendre ce qu'il faut changer dans nos vies. Nous te prions, nous nous tournons vers toi pour que tu changes nos cœurs, pour que nous trouvions la force, le courage, la persévérance pour la mettre en pratique. Et nous te prions que tu sois glorifié et que ton règne vienne. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, nous retournons à Corinthe. Nous avons, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pris l'habitude d'étudier, d'écouter ce que Dieu a à nous dire à travers la première lettre aux Corinthiens. Et là, on est au début de la première lettre aux Corinthiens, on en est au chapitre 2. Et je ne vous cache pas que le développement est un peu compliqué à suivre. Paul développe des arguments assez fins. Alors, je rappelle rapidement les épisodes précédents pour qu'on puisse retrouver s'y retrouver à la lecture. Corinthe, c'est une église qui est en proie à des conflits. Plus précisément, il y a des partis qui se créent, qui sont là. Chacun se range derrière une école de pensée et va penser que c'est celle qui suit qui est la meilleure. Et ainsi, il y a des rivalités. Il y a un esprit de parti qui est là et qui traduit la recherche d'une sagesse supérieure. Il y a le message de l'Évangile que Paul est venu prêcher quand il a fondé l'Église. Ça, c'est bien, mais il y a autre chose. Il y a autre chose qu'il faut découvrir, qui doit être révélée. Il y a les mystères de Dieu, les profondeurs de Dieu qu'il nous faut trouver. Et Paul écrit à cette Église pour combattre ces conflits, pour combattre cet esprit de parti. Il a rappelé au tout début que Christ n'est pas divisé. Christ est un. En lui, il y a l'unité. Il a rappelé également que rechercher la sagesse, c'est être un peu à côté de la plaque, parce que le message de l'Évangile, le message de la croix, qu'un jour un homme soit mort à Jérusalem, crucifié par les Romains sur les manigances des chefs religieux, et que cet événement qui soit passé nous donne le salut, nous donne la paix avec Dieu, et bien ça, c'est une folie pour le monde. Que ce soit aussi simple que de connaître et de mettre sa confiance dans cet événement historique. Je vous propose de poursuivre la lecture de l'Épître au chapitre 2 et voir ce que Paul nous dit à présent, que ce que Paul écrit aux Corinthiens pour la suite. Donc, 1 aux Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Cependant, c'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde qui doivent être réduits à rien. Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance depuis toujours à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que provoque chez vous la lecture de ce texte. Chez moi, ça m'a laissé un peu dubitatif. J'ai trouvé ce texte particulièrement compliqué. Et c'est pour cela que nous allons le reprendre un peu plus lentement pour essayer de comprendre ce que Paul veut dire. Mais il y a quand même quelque chose qui saute aux oreilles des auditeurs, des lecteurs attentifs, qui saute aux yeux des lecteurs attentifs de l'Épître. Paul vient de dire que le message de la croix, c'est une folie aux yeux du monde. Et là, il a dit ça, il leur a dit avant que parmi eux, à l'église de Corinthe, il n'y avait pas de sages. Ils veulent jouer comme le monde, à la course à la sagesse, mais ils n'en ont pas les épaules. Ce sont des gens relativement faibles qui ne peuvent pas concourir sur ce terrain de la course à la sagesse. Et il a dit, Paul, que la croix, c'est une folie, qu'elle n'a rien pour attirer la société d'alors, et que nous n'avons rien d'autre à prêcher que la croix, rien d'autre à prêcher que cette folie. Et là, en lisant ce texte, Paul prend à contre-pied ce qu'il vient de dire en nous disant que c'est une sagesse que nous annonçons. Alors, un peu d'explication de texte, parce qu'il y a beaucoup de termes qu'il a fallu reprendre plusieurs fois pour que je les comprenne. Cependant, c'est bien une sagesse que nous annonçons parmi les gens accomplis. Les gens accomplis. Je crois que c'est avec une certaine ironie que Paul parle de personnes accomplies, de gens accomplis. Justement, les Corinthiens faisaient un peu les fiers. Nous sommes des personnes accomplies et nous pouvons passer à autre chose que le simple message de la croix. Ben, ça tombe bien, leur dit Paul, ça tombe bien, cette sagesse, elle est pour les gens accomplis. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, qui doivent être réduits à rien. Nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Encore une fois, Paul fait preuve d'ironie. Les Corinthiens sont là à essayer de découvrir le message caché de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a en plus derrière cette annonce simple du salut par la croix ? Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Et Paul vient leur dire, ben justement, c'est cette sagesse, ce message de la croix qui est caché, qui est mystérieux, qui est caché au monde. Mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance depuis toujours à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Voilà la preuve que cette sagesse est mystérieuse et cachée. Les princes de ce monde, ceux qui gouvernent le monde de l'époque, les chefs romains, les chefs religieux juifs, n'ont pas été capables de discerner qui était Jésus, de discerner la portée de ce qui se tramait à Jérusalem lors de cette Pâque. C'est bien la preuve que cette œuvre est mystérieuse, qu'elle est cachée aux yeux du monde, puisque les leaders, ceux qui sont sages, ceux qui guident, n'ont pas été capables de la voir. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Et là, il y a un petit problème. Il manque quelque chose. Il y a un problème, il y a une difficulté dans le texte. Apparemment, il manque un mot. Alors, les traducteurs hésitent. Cette citation, soit ils la rattachent au verset qui précède, hein, ils rajoutent un verbe. Ils disent « Nous annonçons ce que l'œil a vu, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, etc. » Ou alors, il y a d'autres traducteurs qui rattachent ça à la phrase d'après, au verset d'après. Hein. « Comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas entendu, etc. » C'est ce que Dieu, Dieu l'a révélé par l'Esprit. Hein. Ce que l'homme n'a pas vu, Dieu l'a révélé par l'Esprit. Et les traducteurs hésitent. Vous avez entendu ma traduction qui, elle, n'hésite pas et ne complète pas. Et finalement, je trouve que c'est pas mal. Paul fait une citation d'Ésaïe, une citation qui devait être connue, et il l'évoque comme ça. Hein? Il leur dit que cette sagesse est mystérieuse et cachée. Vous savez, là, comme on le lit dans Ésaïe, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, etc. Il évoque que c'était annoncé depuis tout le temps, que cette sagesse, que le salut, c'est quelque chose qui ne serait pas vu, quelque chose qui ne serait pas partagé par le monde. Je poursuis au verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, les profondeurs de Dieu, c'est un peu mystérieux comme terme. Sans doute le nom de code, ce que les Corinthiens cherchent à découvrir, ce mystère qui fera leur foi plus grande que le simple message de la croix, les profondeurs de Dieu. Et Paul leur dit, encore une fois avec ironie, ne bougez pas, les profondeurs de Dieu, c'est là. Qui donc, verset 11, qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui ? Celle-là, il a fallu la lire plusieurs fois. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui ? Cette phrase est peu claire, surtout dans ma version. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dynamiques. Ce qu'il veut dire, c'est que parmi les humains, personne ne sait ce qu'un humain pense, si ce n'est son propre esprit, si ce n'est lui-même. Il est en train de dire, je suis le seul à savoir ce que je pense. Tu es le seul à savoir ce que tu penses. L'homme est le seul à savoir ce qu'il pense. De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. L'homme est seul à savoir ce qu'il pense, et donc Dieu est le seul à pouvoir savoir ce que pense Dieu. Or, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit en associant le spirituel au spirituel. En associant le spirituel au spirituel. Là encore, les traductions sont partagées. Certaines traductions disent en exprimant des choses spirituelles à des êtres spirituels, alors que d'autres disent en exprimant des choses en termes des choses spirituelles en termes spirituels. En fait, c'est un peu compliqué avec cette insistance sur spirituel parce que, encore une fois, Paul utilise le vocabulaire des Corinthiens. Des Corinthiens qui veulent rechercher quelque chose de plus spirituel que la croix, quelque chose de plus puissant que la croix. Et Paul utilise pour dire que ce n'est pas si compliqué. Ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est spirituel. Et c'est ça dont on parle, ces vérités spirituelles. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Encore une fois, Paul donne une citation d'Ésaïe. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, pour rappeler aux Corinthiens que le message du salut, c'est un mystère et c'était prévu que ce soit un mystère. Voilà un peu pour l'explication des termes difficiles, des termes les plus difficiles. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Déjà, Paul dit que ce message de la croix, c'est une sagesse. Ce n'est pas seulement une folie simpliste, c'est une sagesse. Une sagesse qui est même cachée et mystérieuse. Pour les Corinthiens qui aiment les mystères, ça tombe bien. Ce message de la croix n'a pas pu être discerné par les puissants, en particulier par les chefs religieux qui avaient Jésus sous le nez et qui avait toute la connaissance nécessaire. Et pourtant, ils n'ont pas été capables de le voir. Pilate également, l'administrateur romain, a eu Jésus devant lui et il a été très intrigué. Mais il n'a pas été capable de voir. C'est une sagesse cachée que le message de la croix. Et c'est une sagesse qui est révélée par l'Esprit. Tout le passage du verset 10 au verset 16 parle de l'Esprit qui révèle le mystère de cette sagesse. Et cette sagesse, aux Corinthiens qui ont quelques complexes dans le monde où ils évoluent, qui recherchent tout le temps la sagesse, cette sagesse, dit Paul, est supérieure à la sagesse du monde. Elle est supérieure puisque les princes de ce monde n'ont été capables de rien voir. C'était trop fin pour eux. Les sages n'ont rien vu. Et en fait, quand on y pense, c'est juste. Si le monde pense que le salut par la croix est une folie, mais si on se place de l'autre côté et que Jésus était le salut, crucifier le salut, crucifier l'objet du salut. Voilà la folie véritable. Et c'est cette folie véritable, cet acte complètement insensé qu'ont fait les autorités en condamnant Jésus, qui les condamne, qui invalide leur sagesse. Et c'est pour ça que, nous dit Paul, ils seront réduits à rien, au verset 6. C'est pour ça, au verset 15, que ceux qui ont cette sagesse peuvent juger de tout et ne seront jugés par personne. Parce que Ceux qui mettent leur confiance dans cette sagesse, ceux qui mettent leur confiance en Jésus, sont inaccessibles au jugement des humains. Cette sagesse condamne les raisonnements humains. Et elle le fait à notre gloire, comme il est dit au verset 7. Elle fait connaître à ceux qui se confient en elle, à ceux qui se confient en Jésus, un destin glorieux. Donc le message de la croix, c'est une sagesse. Autre chose sur laquelle insiste Paul, c'est l'esprit. L'esprit est un acteur majeur dans l'accueil de cette sagesse. Et on comprend, en lisant ce texte, que l'esprit, ce n'est pas quelque chose de flou. L'esprit, c'est une personne. Il révèle au verset 10, il sonde tout au verset 10, il connaît ce qui relève de Dieu, verset 11, il vient de Dieu, verset 12, il enseigne, verset 13. Tout ça, c'est une personne qui le fait. Et ce texte est fort pour nous expliquer que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelque chose de flou qui inspire, un souffle, une inspiration, c'est une personne. Il vient compléter ce que nous enseigne la Bible, que l'Esprit parle, qu'il a une volonté, qu'il enseigne, qu'il témoigne, qu'il convainc, qu'il conduit, qu'il entend, qu'il annonce. Tout ça, on le retrouve dans l'Évangile de Jean, qu'on peut l'attrister, qu'on peut lui mentir, lui résister, l'outrager. Qu'on peut pécher contre lui et qu'il est associé à Dieu, au Père et au Fils, et que lorsque l'Esprit est présent dans le croyant, le Père et le Fils y sont également, ce que nous dit l'Évangile de Jean. La sagesse qui vient de Dieu, le message de la croix, cette sagesse qui est cachée, Dieu seul la connaît. L'homme est incapable de la comprendre si l'Esprit de Dieu ne lui révèle. Le Saint-Esprit qui habite dans le croyant, il faut que l'homme l'écoute pour accepter cette sagesse. C'est le Saint-Esprit qui la révèle. Le rôle de l'homme, eh bien, c'est d'écouter la voix de l'Esprit, l'écouter humblement et ne pas lui résister. Il y a une dernière question pour bien comprendre ce texte. Paul parle de nous. Nous, 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 sans arrêt, nous. Qui est ce nous? Alors, dans le nous, forcément, il y a Paul. Mais sa première personne du pluriel, il y en a d'autres avec lui qu'il associe à son discours. Les autres, c'est certainement les autres apôtres et les compagnons de Paul, ceux qui annoncent avec lui l'Évangile. Je crois que ça ne s'arrête pas là. Dans ce « nous », il y a tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est justement ce que dit Paul dans cette épître, qu'il n'y a pas de chrétien supérieur, il n'y a pas de sagesse supérieure, il n'y a pas de révélation supérieure. Il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont cru en Jésus-Christ, et il y a les autres. Et dans ce nous, eh bien, il y a l'apôtre, il y a ceux qui annoncent. Et puis il y a ceux qui veulent. Avec ce texte, Paul interroge ses lecteurs. Il interroge les Corinthiens. Et vous? Est-ce que vous faites partie de ce nous? De ce nous qui énonce la sagesse? Ce nous à qui Dieu a révélé sa sagesse par l'Esprit? Ce nous qui savent que ce que Dieu leur a donné, c'est par la grâce qu'il leur a donné. Ce nous qui possède la pensée du Christ en lui, ce nous que Dieu a destiné à sa gloire. Est-ce que vous en faites partie ? Demande-t-il aux Corinthiens. Donc, pour résumer, ce que dit Paul dans ces 11 versets un peu denses, c'est que l'Évangile est une sagesse supérieure à la sagesse humaine, une sagesse cachée par Dieu. Cette sagesse est cachée, mystérieuse, et seul l'Esprit, donné par grâce, peut la révéler à ceux qui l'accueillent, à nous qui l'accueillons. Mais vous, auditeur, où vous situez-vous? Voilà ce que dit Paul. Pourquoi le dit-il? Je pense d'abord qu'il le dit parce qu'il est bon d'entendre que la croix, c'est un peu plus qu'une folie pour le monde. Que la croix, le message de la croix, c'est une sagesse profonde, mystérieuse, une sagesse qui peut rivaliser avec les raisonnements humains. Mieux, une sagesse qui les surpasse. Cette sagesse est supérieure, elle permet de juger toute chose. Elle permet de s'affranchir de tout jugement. Celui qui s'y fie ne peut pas être jugé par les autres, il ne peut pas être attaqué, parce qu'il ne donne plus de valeur aux choses de ce monde, parce qu'il a mis sa confiance en quelque chose de supérieur, et que si ce monde l'attaque sur le plan des idées, ça ne touche pas. En suivant Dieu, il s'est rendu inaccessible à ses attaques. Donc ça remonte le moral de savoir que c'est une sagesse, mais il le dit aussi, il ne le dit pas dans le cadre d'une discussion avec ceux qui ne croient pas, il le dit à des croyants, à des gens qui se réclament croyants. Ce n'est pas un discours bulldozer pour dire aux incroyants, ce que vous croyez, c'est n'importe quoi, ça ne vaut rien. Non, c'est vraiment une interpellation pour ceux qui se disent croyants. Et c'est une interpellation pour leur demander où est-ce qu'ils se placent? Où est-ce qu'ils en sont? Ils sont là, à essayer de chercher la sagesse supérieure. Mais ce n'est pas ça le message. Ce que Paul leur dit, et je cite Robert Somerville qui commente ce texte, c'est que le mystère par excellence, le seul qui vaille la peine d'être connu, c'est Jésus-Christ crucifié, puissance et sagesse de Dieu. Les seuls hommes aguerris, les seuls à avoir réellement progressé, sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ et reçu le Saint-Esprit. La seule différence valable entre les humains se situe entre ceux qui sont sauvés et ceux qui se perdent. Et Paul pose la question. Ce « nous », ces hommes accomplis qui ont compris qu'il fallait écouter l'Esprit de Dieu pour découvrir la sagesse. Voulez-vous en faire partie ? Ces hommes qui sont au-dessus de la mêlée, qui ne sont pas jugés par les autres, mais qui peuvent juger de tout. Voulez-vous en faire partie? Eh bien, conduisez-vous comme tel. Cessez de vous diviser, de rechercher une supériorité les uns sur les autres. Soyez un en Christ. Et aujourd'hui alors? Aujourd'hui, à nous, auditeurs clermontois, en 2014, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte que nous avons lu? Je retiendrai trois points, et le premier, c'est que nous pouvons retenir que notre foi n'est pas ridicule. C'est une sagesse. C'est une sagesse qui se pose face à la sagesse du monde. Une sagesse qui n'est pas ridicule, et si on en croit ce que dit Paul, qui est supérieure à la sagesse du monde. J'aimerais citer un exemple qui m'est arrivé cette semaine. Sur Facebook, un ancien collègue réfléchit. Il aime bien réfléchir à métaphysique et en particulier critiquer l'existence de Dieu. Et cette semaine, il a posté sur son mur des photos d'astres, d'étoiles, de planètes mises les unes à côté des autres à l'échelle et qui montrent que l'humanité est minuscule, que la Terre est minuscule dans le système solaire minuscule dans l'univers, alors que dire de l'homme minuscule sur la planète? Et il y voit une preuve de l'inexistence de Dieu. En effet, il a entendu parler de la Genèse, du récit de la création, que la Bible nous apprend que Dieu a créé l'homme et qu'il a créé la Terre pour qu'il y habite. Et le fait qu'il existe bien plus que ce dont parle la Genèse prouve que la Bible n'est pas fiable, prouve qu'elle est folie. Sauf que notre sagesse, c'est que Dieu est le Créateur, le souverain, qu'il a créé toutes choses, qu'il a créé ce que les anciens qui ont rédigé la Genèse connaissaient, et qu'il a créé ce qu'ils ne connaissaient pas et que nous connaissons aujourd'hui, et qu'il a même créé ce que nous n'avons pas encore découvert et que nous découvrirons dans les années, dans les siècles à venir. La Bible elle-même dit que l'homme est minuscule au milieu de cette création et qu'il s'interroge sur la place de l'homme dans l'univers. Le psaume 8 le dit. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin, pour que tu t'intéresses à lui? J'ai pris cet exemple parce que c'est le dernier qui m'est arrivé. Mais notre foi n'a pas à rougir des attaques des incroyants, de ceux qui disent qu'elle est folie. Elle est révélation de Dieu sur notre monde, attestée par le Saint-Esprit. La deuxième chose que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, c'est que il faut nous attacher à cette sagesse de la croix et elle seule. C'est pas la croix et quelque chose d'autre, c'est la croix seule. Car nous aussi, nous pouvons être tentés de rechercher des choses en plus de la révélation de la croix. Qu'est-ce que notre foi à la lumière de la science? Qu'est-ce que notre foi à la lumière de la psychologie, à la lumière du féminisme, à la lumière de tel ou tel mouvement politique? Et alors, nous allons relire la Bible pour découvrir ce qui va dans notre sens. C'est une tentation de notre temps de vouloir faire coller la Bible à des convictions extérieures, à des sagesses du monde. Et du coup, on dira qu'on a mieux compris que les autres, que les autres chrétiens, qu'on est des hommes aguerris, qui comprennent les choses que la Bible a voulu dire. Soyons prudents dans nos analyses et dans nos engagements. On peut tirer des choses intéressantes des systèmes de pensée externes. Mais nous devons nous soumettre premièrement au message de l'Évangile, le salut par la croix, et non pas l'inverse. Vous en êtes certainement habitué, j'aime citer le livre de C.S. Lewis, Tactique du diable. Ce livre dans lequel l'auteur se met dans la peau d'un formateur en tentation et qui écrit à son démon stagiaire pour lui expliquer comment tenter le petit chrétien dont il s'occupe. Ces lettres sont écrites pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et le démon stagiaire se demande, qu'est-ce qui vaut mieux ? Que le chrétien dont il s'occupe s'engage dans le pacifisme contre la guerre, ou au contraire, qu'il s'engage pour la guerre dans le patriotisme. Et voici ce que lui écrit son formateur. Quelle que soit son orientation, ta tâche restera sensiblement la même. Qu'il commence à considérer son patriotisme ou son pacifisme comme partie intégrante de sa religion. Puis, poussé par le parti pris, qu'il vienne à penser que c'est là la partie la plus importante. Puis, petit à petit, très doucement, amène-le au stade où la religion ne sera plus qu'un aspect de la cause, où le christianisme apporte, parce qu'il apporte d'excellents arguments à l'appui de l'effort de guerre britannique ou du pacifisme. Voici les conseils que le formateur écrit. Pacifisme ou patriotisme hier, programme politique de gauche ou de droite aujourd'hui, ou toute autre façon de voir, prenons garde de toujours les faire passer après l'Évangile et d'utiliser l'esprit que Dieu nous a donné pour juger de tout et retenir ce qui est bon. La troisième chose que j'aimerais retenir, c'est cette invitation à faire appel à l'Esprit. Peut-être te demandes-tu si tu veux suivre le message de l'Évangile, si tu dois accepter le sacrifice de Jésus pour toi, si tu dois mettre ta confiance en lui et te savoir en règle avec Dieu, échappant à l'enfer parce qu'un jour il a payé pour toi. Mais peut-être tu doutes. Ça te paraît trop fou? Car la croix, c'est une folie. Si c'est ton cas, je t'invite à prier Dieu de t'envoyer son esprit. Je t'invite à l'écouter lorsqu'il est en toi, lorsqu'il confirme cette sagesse. Et je t'invite à venir rejoindre ce « nous » qui a trouvé la sagesse, ce « nous » qui n'est jugé par personne et qui vivra éternellement dans la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il me semble important de retenir de ce message. Pour Robert Somerville, Paul adresse dans ce passage un avertissement aux chrétiens de tous les temps. Ne laissez pas le jugement des hommes, même des plus sages et des plus savants, vous détourner de la vérité qui est en Jésus-Christ. Le message de l'Évangile est une sagesse. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, nous sommes loin d'être ridicules. Par contre, restons-y fidèles. Ne cherchons pas à l'augmenter, à le modifier. Restons sur la croix de Jésus. Méditons-la, comprenons-la. Nous n'aurons pas assez d'une vie pour comprendre tout ce qu'elle implique. Écoutons son esprit. Restons connectés à celui qui nous a révélé la sagesse de Dieu. Ou peut-être, écoutons-le et prenons un nouveau départ.